L'objecteur est le titre du second et dernier roman de Linaver, publié en 1951. Un demi-siècle plus tard, en 2001, il publie une adaptation théâtrale de ce même roman, intitulée, elle aussi, L'objecteur. On voit donc l'importance pour lui de cette notion de l'objecteur, qui reste à définir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sens que c'est amplifié, mais vous m'entendez bien, merci.
Plus ou moins bien.
Ok, donc je parle un peu plus fort. J'ai toujours un peu peur de trop parler quand il y a un micro. En tant que titre, L'objecteur semble faire écho à L'étranger d'Albert Camus. Et cet écho est sans doute voulu par son auteur, car tout jeune, il avait été fortement marqué par sa lecture du roman de Camus. Ce qui l'attirait chez Camus n'était pas la théorie de l'absurde élaborée dans le mythe de Sisyphe, c'était bien plutôt le goût de Meursault, personnage principal de L'étranger, pour les petits détails apparemment insignifiants de la vie quotidienne. Vous vous rappelez le plaisir qu'il prend à rester sur son balcon toute une journée, à fumer des cigarettes et à regarder les gens déambuler dans la rue. Le fait que, tout en veillant sa mère dans la chapelle de l'asile où elle vient de mourir, il ne refuse pas de boire un café quand on le lui propose. Le fait qu'il ne s'intéresse pas à la promotion dont lui parle son chef de bureau, etc. Je ne sais pas dans quelle édition le jeune Vinaver a lu L'étranger pour la première fois, mais je sais qu'il l'a lu aux États-Unis, puisqu'il y était avec sa famille depuis 1941. Et ce fut à New York, en 1946, que l'étudiant Vinaver, âgé alors de 19 ans, s'est présenté à Camus. Camus devait y faire une conférence sur la nouvelle littérature française. Dans sa préface à l'édition scolaire américaine de L'étranger, reprise d'ailleurs dans l'excellent cahier du Nouveau Théâtre d'Angers, je vois avec plaisir, j'ai écrit ça avant de voir votre cahier, Camus propose qu'il faut considérer Meursault en tant qu'homme qui meurt pour avoir refusé de mentir. Ce refus du mensonge et du compromis était, selon Camus, une des leçons apprises par les écrivains français au cours de la résistance à l'occupation nazie, et il citait l'Antigone de Jean Anouilh comme un autre exemple de personnage qui préfère la mort au compromis. Vinaver était patriote. Malgré les circonstances qu'il avait obligé, lui et toute sa famille, de fuir la France en 1941, il interrompit ses études aux États-Unis pour se porter volontaire dans l'armée des forces françaises libres et passa une année de service militaire en France entre 45 et 46. Pendant cette période, il se passa quelque chose de très important pour lui et pour sa conception de l'individu vis-à-vis de la société. Il l'a évoqué, ce quelque chose, au cours des entretiens à la radio enregistrés en 1988, et il en a parlé plusieurs fois depuis. Il le décrit de nouveau dans un court essai de l'an 2000 qui s'appelle « La visite du chancelier autrichien en Suisse », où l'on peut lire ce paragraphe. L'objecteur, il parle du roman, non pas de l'adaptation, l'objecteur a un point de départ autobiographique. Le personnage principal, Julien Bem, faisant son service militaire, est mis en prison pour s'être assis par terre dans la cour de la caserne et avoir posé son fusil à côté de lui au cours d'un exercice. C'est ce que j'avais fait, ou plutôt, c'est ce qui m'est arrivé, tant j'étais loin de me dire que je faisais quelque chose. Objecteur, mais pas objecteur de conscience. Qu'est-ce qui m'avait saisi? Une évidence aussi massive qu'informulée. Fin de citation. Julien Bem est le premier parmi une série de personnages réfractaires dans l'œuvre de Vinaver. Pour comprendre le geste de Julien, il faut voir sa parenté avec Meursault. Il partage avec Meursault le goût des plaisirs simples de la vie quotidienne. Comme Meursault, il répond d'une façon spontanée aux exigences de l'instant. Il ne s'arrête pas pour réfléchir sur ses conséquences, les conséquences de ses actions, ni pour sa carrière, ni pour son avenir. Pareil à Meursault, sa résistance à l'ordre établi comporte un côté négatif, aussi bien que positif. Du côté négatif, il s'agit d'une action instinctive, donc potentiellement destructive. Du côté positif, c'est une action dont la racine est une expérience de la vie ressentie profondément dans sa vérité vécue et le désir de ne pas trahir cette vérité-là. Bon, alors pour commencer avec la réalité quotidienne, Vinaver a expliqué de façon très claire son importance pour lui en tant qu'auteur, et je m'excuse de citer un passage qui sera connu, je sais, de beaucoup d'entre vous, mais c'est quand même un très beau passage, à mon avis. Je cite, « À l'égard du quotidien, j'ai un rapport ancien, un rapport enfantin. Un rapport qui remonte à l'enfance et qui n'a pas changé, et qui est au centre même de mon activité d'écrivain. Je crois bien qu'enfant, j'étais étonné qu'on me permette les choses les plus simples, comme de pousser une porte, de courir, de m'arrêter de courir, etc. J'étais étonné, émerveillé de ces droits qu'on me donnait, et j'étais toujours à craindre qu'on ne me les retire, qu'on me repousse dans la non-existence. De la sorte, le quotidien, c'était quelque chose de très vibrant, au bord de l'interdit, en tout cas précaire, immérité. Toute mon activité d'écriture depuis les romans que j'ai faits quand j'avais un peu plus de 20 ans, le premier s'appelait « L'atome ou la vie quotidienne », et dès ma première pièce, son titre à l'origine était « Aujourd'hui ou les Coréens », toute cette activité est une tentative de pénétrer ce territoire, le quotidien, qui ne m'a jamais été donné, dont l'accès est toujours à découvrir, à forcer. Autant dire que pour l'écrivain que je suis, rien n'existe avant d'écrire, et qu'écrire, c'est essayer de donner consistance au monde, et à moi dedans. Le monde, ça ne peut se créer qu'à partir de l'informe, de l'indistinct, du tout venant. Et puisque je suis écrivain et non peintre ou musicien, c'est à partir de paroles quelconques, de paroles à l'extrême de l'ordinaire, du quelconque. La banalité dans le désordre, c'est mon point de départ, toujours. Il ne peut pas y en avoir d'autre. La citation vient du premier volume d'Écrit sur le théâtre, pages 123 et 4. Parce qu'il a la sensation de se tenir en quelque sorte en dehors de la réalité, la création littéraire devient pour lui tout le contraire d'un mimésis. Au lieu d'imiter une réalité donnée par avance, il écrit précisément pour en découvrir l'accès, pour donner consistance au monde et à moi dedans. Ce mouvement oscillatoire du dehors vers le dedans et vice-versa constitue un principe important de l'œuvre. Mais il faut insister d'abord sur cette notion de découverte. Rien n'est jamais donné d'avance. C'est donc en s'abandonnant au tout venant de la parole, aux répliques qui surgissent sans que l'on sache pourquoi, que Vinaver peut commencer à écrire, c'est-à-dire à se donner consistance. Soit dit en passant que les thèmes traités par Vinaver sont très complexes et loin de se limiter à celui de l'objecteur que j'ai choisi pour ce soir. Au contraire, l'œuvre de Michel Vinaver témoigne d'une ambition peu commune au théâtre contemporain. Rendre compte des grands événements de notre époque et donner à réfléchir sur le cours de la vie à l'échelle nationale. On pourrait énumérer ces grands thèmes, comme par exemple la guerre d'Algérie, la mort de la 4e République et la naissance de la 5e, la restructuration des grandes entreprises soumises à l'évolution du capitalisme multinational, le fonctionnement de la justice, l'influence des médias sur la vie en France, etc. après s'être habitué au paysage nu de Beckett et au jeu de massacre d'Ionesco, et à l'observation minutieuse d'états intérieurs de tant d'autres dramaturges, le spectateur a de quoi être surpris par la richesse et la quantité de références concrètes au monde réel chez Wienerwaer. En même temps, sa façon de traiter ces thèmes est très différente de ce qu'on s'attend d'un théâtre réaliste ou d'un théâtre politique engagé. Le principe de sa dramaturgie, d'une très grande originalité, à mon avis, consiste à creuser dans ce quotidien si vibrant pour lui. Et d'ailleurs, le point de départ de plusieurs de ses pièces est justement un article lu dans un quotidien. Le point de départ peut être n'importe quelle petite bribe de réalité quotidienne. Et à partir de cette matière brute émerge ce qu'il appelle une poussée vers le sens. Et je cite un autre passage. Excusez-moi. Au départ d'une pièce, il n'y a aucun sens. Mais aussitôt l'écriture de la pièce commencée, il y a une poussée vers le sens, une poussée vers la constitution de situations, de thèmes, de personnages. À partir d'un noyau indéterminé, issu de l'explosion initiale, la pièce n'arrête pas de se construire. À la fin, si elle est réussie, elle se présente comme un objet aussi rigoureusement construit que s'il y avait un plan préalable. Cette construction rigoureuse ne veut pas dire pour autant structure traditionnelle, car s'il crée bien personnages, situations, conflits, etc., Wienerwaer refuse presque toujours la narration linéaire au profit de ce que Patrice Pavis nomme dans un livre récent sur le théâtre contemporain le principe de l'intrusion. Je vais citer un petit passage de Pavis. À tout moment, un ou plusieurs locuteurs sont susceptibles de s'immiscer dans les conversations sans s'en rendre compte et sans paraître en être dérangés le moins du monde. Ces dialogues se poursuivent comme si de rien n'était, mais l'entrelacage des deux conversations à l'intérieur d'une même scène ou d'une scène à l'autre produit la plupart du temps une surprise amusée. Et il cite Wienerwaer lui-même, « La continuité verbale se constitue à partir de la discontinuité des éléments de réalité et provoque des jointures ironiques, illimitées et imprévues. Tout le pari est dans la surprise amusée et dans l'émotion comique découlant des ruptures et des jointures imprévues. » Ça, c'est dans le livre de Pavie, « Le théâtre contemporain ». Ce principe trouve sa meilleure illustration dans la pièce la plus expérimentale de Wienerwaer, qui date de 1971, La demande d'emploi. Dans cette pièce, le thème principal est celui du chômage des cadres. Presque entièrement dépourvue d'intrigue linéaire, cette pièce en 30 morceaux, comme il l'appelle, avait été conçue au départ comme série exercice. Alors j'ai l'école de théâtre et je pensais qu'il va oublier la maladie. Les quatre rages qui tombent en sans dessinaison insensée, ou ensemble comme un quatuor à cordes, chacun apportant sa sonorité ou sa tonalité particulière. La structure de la pièce rappelle la forme musicale, thème et variation. Le thème du départ étant perdre sa place, non seulement sa place dans une société commerciale, mais aussi sa place dans la société, dans la famille et même le propre sens de son identité. Les personnages sont Fage, un directeur des ventes au chômage depuis 3 mois, Louise, sa femme qui supporte mal la perte d'un mode de vie sécurisant, Nathalie, leur fille gauchiste, et Wallace, un directeur de recrutement pour une compagnie spécialisée dans le recrutement des cadres. Du point de vue du thème de l'objecteur, cette pièce peut sembler n'avoir rien à dire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Certes, aucun des personnages ne fait figure d'objecteur, mais le spectateur, lui, comprend à quel point chacun des trois membres de la famille essaye désespérément de se conformer aux normes de la société française de l'époque, dominée par la crise du capitalisme, et combien leurs tentatives sont vouées à l'échec. Ces trois personnages sont, selon une phrase de l'auteur, à la fois broyés par le système et en complète communion avec lui. L'on comprend que pour eux, le seul moyen possible de sortir de leur cercle infernal serait justement de faire ce que Vinaver appelle le saut à l'écart, mais ils en sont incapables. Comme la demande d'emploi, beaucoup des pièces de Vinaver mettent en scène une opposition entre deux groupes constitués différemment, ou entre ceux qui font partie du groupe et ceux qui en sont exclus. Ainsi, par exemple, dans Les Coréens, sa première pièce, nous trouvons un peloton de soldats français membres de la force expéditionnaire des Nations Unies en Corée. Leur dialogue abonde dans les clichés des jeunes militaires. Le langage devient une manière de confirmer leur force et leur supériorité là où ils se sentent perdus et incertains. Ils affichent les préjugés de n'importe quel jeune groupe de jeunes hommes envoyés en mission dans un pays du tiers-monde. Mais l'un d'entre eux, Belair, se sépare du peloton par la suite d'une erreur d'orientation, et à partir de ce moment, il est séparé aussi de ce langage de clichés réconfortants et de routines de vie imposées par l'armée. Quand Belair se trouve séparé de sa patrie, il fait entrer dans un monde dont il ne sait rien au départ. Ainsi, il ne peut se fier à rien d'autre qu'à son expérience immédiate. Toutes ses idées préconçues s'envolent et il commence à comprendre sa situation différemment, car il est libéré des catégories dont il se sert normalement pour régir ses actions. Au lieu de se battre, se regrouper, suivre les impératifs de la discipline militaire, il s'assied, regarde autour de lui, se laisse instruire par la situation dans laquelle il se trouve. Dans cette expérience, Vinaver propose non une échappatoire hors du monde réel, mais au contraire, une mise en relation étroite de la fiction et de la réalité. Belair fait la rencontre de villageois coréens et découvre une réalité autre que celle prévue par sa formation. Il découvre entre lui-même et les villageois des liens surprenants. Et à la fin, il leur dit ces paroles « Je me sens de plus en plus comme un cheveu sur la soupe et en même temps de moins en moins. Votre joie est contagieuse. Je ne sais pas demain ce qui se passera, mais aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai envie de rester ici jusqu'à ce que cette guerre soit finie. » Fin de citation. Il a quitté son groupe du début pour se trouver intégré dans un autre groupe, une autre réalité. Selon le mot de l'auteur, il fait un saut à l'écart et se trouve en plein dedans. La réception de cette pièce en 1956 a de quoi nous étonner avec le recul du temps. Elle était considérée comme offensive à l'armée française et provoqua des batailles de rue devant le théâtre de Planchon, qui était à cette époque au centre de Lyon. Vinaver se trouva tout d'un coup traité en tant qu'auteur engagé. Rien dans la pièce, cependant, ne justifie cette interprétation. À son avis, et je le cite, « l'art est d'autant moins efficace politiquement qu'il s'évertue à l'être ». Il avait pourtant écrit dans sa préface à l'édition du texte des Coréens dès son origine, le théâtre a pour usage d'émouvoir l'homme, c'est-à-dire de le faire bouger. Sa fonction est de bousculer le spectateur, mais le théâtre n'est pas un instrument révolutionnaire comme les autres. Il faut bien constater que le théâtre qui se présente d'emblée comme révolutionnaire échoue dans son projet par le simple fait que le public le refuse. Fin de citation. Donc, pour lui, le rôle du théâtre est moins de nous donner une leçon que de nous émouvoir et par cela même de nous distancier de nos perceptions habituelles, de nous permettre de voir plus clair dans notre propre situation, et ainsi de nous libérer, tant soit peu, de nous-mêmes. C'est une conception qui trouve une formulation, on ne peut plus claire, dans un essai que Vinaver publia quelques années plus tard à propos de Troilus et Cressida de Shakespeare, quand cette pièce était montée par Planchon au Théâtre de la Cité à Villeurbanne cette fois. Et dans cet article, il évoque, je cite, « un théâtre libéré de la fable, ouvert explosivement à toutes les possibles, à tous les possibles, riche de résonances sans limite, informant notre actualité sans nous enfermer dans une leçon. » Après Julien Bem de L'Objecteur et Belair des Coréens, le personnage du théâtre de Vinaver qui nous renvoie le plus fortement à L'Étranger de Camus est Sophie Ozano, personnage principal de Portrait d'une femme. Écrite en 1984, l'idée de cette pièce est venue à l'auteur lorsqu'il découvrit une liasse de coupures de journaux dans son grenier, dans le grenier de sa maison à Annecy. Les coupures de presse dataient de 1953 et rendaient compte du procès de Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, qui avait tué son amant. Ah non, est-ce qu'elle était étudiante en médecine ?
Oui.
Elle l'était bien, oui. Qui avait tué son amant et qui fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Elle fut en effet graciée dans les années 60, mais elle s'est suicidée peu de temps après sa sortie de prison. À relire ces reportages publiés au jour le jour, car le cas avait eu beaucoup de retentissement à l'époque, Vinaver fut saisi par l'échec total de la machine judiciaire à faire en sorte que Pauline Dubuisson rentre dans leur champ linguistique. Elle n'adopta aucune des attitudes qu'on attendait d'elle dans les circonstances. Elle ne fit preuve ni de contrition, ni d'obstination. Elle parut tout simplement hors de portée des disputes et des querelles autour de son crime. Elle sembla simultanément dedans et dehors. La pièce de Vinaver est construite de manière à faire ressortir cette relation, ou plutôt absence de relation, entre la jeune étudiante et le tribunal. Sophie Ozano, telle qu'elle se nomme dans la pièce, fait preuve du comportement d'un objecteur. C'est-à-dire qu'elle n'oppose pas une résistance directe aux juristes, juges, magistrats, etc., mais elle se montre réfractaire envers ceux qui veulent l'entraîner à dire plus qu'elle ne veut dire. Dans le roman de Camus, l'auteur emploie un procédé ironique. Face à Meursault, il met en scène des gens qui veulent le faire rentrer dans l'ordre au sens d'accepter leur échelle de valeur, et donc, en l'acceptant, de se reconnaître coupable. Le juge d'instruction, par exemple, irrité par le silence de Meursault, sort un crucifix du tiroir de son bureau, le brandit devant lui et lui demande dans un éclat de voix « Et celui-là, vous le connaissez ?» Au bout du procès, le procureur termine sa plaidoirie en disant « J'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. » De cette façon, Camus fait comprendre au lecteur que le vrai scandale n'est pas le meurtre commis par Meursault, mais son refus d'entériner les valeurs de la communauté française d'Oran. Vers la fin de son roman, il permet à Meursault un moment de prise de conscience où il arrive à articuler ses propres valeurs et sa foi dans la vie. C'est le moment de son entretien avec l'aumônier dans la prison. Pour Sophie, par contre, un tel moment est exclu. Elle n'arrive jamais au même stade de compréhension de ses propres mobiles. Mais les effets d'ironie au cours du procès s'avèrent tout aussi efficaces chez Vinaver que chez Camus. Dans Portrait d'une femme, la machine judiciaire tourne à vide tout simplement parce que Sophie refuse d'entrer dans son jeu ou d'accepter sa façon de construire la causalité. Pour le spectateur, l'intérêt de la pièce consiste à capter les bavures provoquées par la pression du processus et les rituels judiciaires, dont la fonction est de recomposer le réel, même quand ce réel semble introuvable. Il en résulte une force ironique qui donne à réfléchir sur toute mise en procès. Wynawer a fait le choix de respecter sa source, toutes les paroles du procès telles qu'elles paraissaient dans les reportages du Monde figurent dans la pièce. Le résultat est de laisser certaines opacités dans le texte et d'installer un décalage de langage, puisque les avocats parlent une langue de bois et que leur discours juridique se plaît à manipuler les expressions légèrement archaïques. Intercalé entre les scènes du procès, Wynawer crée une série de scènes dans la vie imaginée de Sophie dans les années précédant son crime. Des scènes de famille, de la vie estudiantine, de la vie amoureuse de Sophie, etc. Le langage imaginé par Wynawer pour ces scènes ne cherche pas une authenticité historique. Il est plus ou moins celui des années 80, c'est-à-dire l'époque où la pièce était écrite. Et cette légère différence historique entre le langage des juristes et celui du monde intime ou familial de Sophie accentue l'impression de décalage entre le tribunal et l'accusé. Des événements censés avoir eu lieu au cours de plusieurs années et différents pays sont tous entremêlés dans un présent continuel sur le plateau. Et, selon le principe d'intrusion énoncé par Pavy, les dialogues de ces différentes scènes dans la vie de Sophie s'interfèrent, se juxtaposent, s'entrelacent. Il en résulte un texte fragmentaire comprenant une multiplicité de voix différentes. Les témoins appelés devant la cour parlent dans une variété déroutante d'idiomes dont les présupposés idéologiques se révèlent au fur et à mesure. Sophie ne semble pas être touchée par ces confrontations. Ses réponses sont en désaccord total avec l'attente de ses interlocuteurs. Ses propres sentiments, ainsi que ses propres besoins affectifs, ne font jour que dans les scènes de retour en arrière, scènes qui évoquent son enfance, sa vie avec les parents, les amis, les amants, les professeurs. Mais là encore, elle se trouve en porte-à-faux devant ce que les gens attendent d'elle. Chacun affiche son idée particulière de ce qu'elle devrait être ou évoque son image d'elle qu'il essaye de lui imposer. Le spectateur en vient à ressentir un peu ce que ressent Sophie à cause de la technique d'enchevêtrement des dialogues. Ainsi, le spectateur n'est jamais sûr du contexte de telle ou telle réplique. Il partage l'expérience de Sophie, qui se trouve sans cesse décentrée, dépiécée, déplacée de là où elle pensait être, se retrouvant devant des images d'elle-même qu'elle ne reconnaît pas. Je crois qu'il est utile d'analyser ces images pendant un moment, car de la même manière que, dans n'importe quel procès, notre idée de la vérité est créée par des témoins, dans cette pièce, nous apprenons à connaître Sophie à travers les témoignages des gens qui l'entourent. Son père, par exemple, est d'un sarcasme brutal avec elle, la traitant de pute. Sa mère et Madame Guibault, chez qui elle loge quand elle est étudiante, sont bien plus aimables, mais la considèrent comme un enfant. Avec Xavier, au début, il y a une petite lueur d'espoir. Il vient d'une solide famille bourgeoise, il la trouve fascinante, imprévisible. Il semble qu'il va être capable de lui témoigner l'amour et la compréhension dont elle a si profondément besoin et envie. Mais il s'avère incapable de la traiter d'égal à égal. Pour lui, elle ne peut être que la créature blessée apeuré, tombé du nid, qui a besoin de protection. Très vite, sa fascination se transforme en peur et il se tourne plutôt vers Francine. Claudette, l'amie de Sophie, lui fait preuve de plus de loyauté. Mais ses idées et son langage, tout comme ceux des autres étudiants en médecine, ne sortent pas de l'acceptation du système où la femme doit toujours soumettre à l'homme. Les hommes plus âgés de sa connaissance la traitent d'enfant ou de jouet, comme dans la scène où elle essaye d'acheter un pistolet, scène qui n'est pas sans rappeler Wojciech. Colonna, son professeur, ne le comprend pas du tout. Schlesinger, lui, le médecin allemand qu'elle avait connu pendant l'occupation et qui était devenu son amant, la comprend mieux, mais ne peut rien pour elle, car il n'a aucune intention de quitter sa femme quand Sophie le retrouve plus tard. Le propre de toutes ces relations est d'être des relations de puissance. Voilà d'ailleurs le parallèle profond avec Wojciech. Sophie est celle qui est toujours en bas de l'échelle. Sophie reste soumise aux intérêts des différents hommes dans sa vie et sa situation devant le tribunal devient l'image même de sa condition tout entière en tant que jeune femme grandissante dans la France des années 40, elle n'a pas la possibilité de vivre sa vie indépendante, comme il était permis à Meursault de le faire. Elle ne peut pas non plus trouver une voie indépendante, comme Meursault le fait. Cependant, au bref moment où elle a la possibilité d'agir spontanément, Sophie, comme Meursault, ou Julien Bem, ou Belair, fait preuve de la même joie et appréciation d'expériences qui, de l'extérieur, peuvent paraître ordinaires, voire dérisoires. À travers le personnage de l'objecteur, Wynaver identifie une réponse particulière à l'appel du monde extérieur. Ce n'est pas une réponse qui atteint le statut presque héroïque de Meursault, mais une prise de position qui prend sa place dans une perspective plus quotidienne. C'est l'acte d'une personne qui est à la recherche de valeurs sûres dans un monde instable, qui ne les trouve pas, mais qui découvre tout au moins un engagement en quelque sorte négatif. Une situation dans laquelle une déflagration a lieu, qu'il ou elle comprend mal d'ailleurs, mais qui l'oblige à faire un geste pour marquer une objection. Objection qu'il ou elle maintiendra contre vents et marées, malgré son impuissance à changer la situation. Ce refus du monde, tel que le système voudrait nous faire l'accepter, fait son apparition d'une façon un peu différente dans la très belle pièce 11 septembre 2001. Cette fois, c'est l'auteur lui-même, autant que les personnages, qui semble être l'objecteur. Il procède dans cette pièce de la même façon qu'il avait fait en composant Portrait d'une femme, c'est-à-dire qu'il se sert de coupures de presse, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une plongée dans le passé, mais d'une prise sur le vif des événements dans les jours qui suivent la destruction des deux tours. Ce texte consiste presque entièrement en un assemblage de voix de personnages véritables pris dans les journaux américains ou à la radio ou à la télévision. En refusant de traiter ce sujet brûlant sur le temps de la protestation, en faisant parler à la fois Bush et Ben Laden, Wynaver élève sa voix contre l'hystérie globale qui menace, au moment où nous parlons, de diviser le monde en deux camps antagonistes, chacun voué à la destruction de l'autre et surtout au refus de comprendre l'autre. Parmi les personnages de la pièce, on détecte aussi ce refus modeste de suivre les ordres, si caractéristique de l'objecteur. les gens, par exemple, qui n'obéissent pas à l'ordre de remonter à leur bureau et qui finalement doivent leur vie à cette désobéissance. Le passager dans l'avion qui vole vers le White House, qui n'accepte pas les ordres des islamistes qui ont entassé les passagers à l'arrière de l'avion et tente de reprendre possession de l'avion. Et surtout, ce laveur de vitres qui ne veut pas abandonner son racloir et son vieux seau, mais qui réussit contre tout espoir, grâce à ce racloir, à faire sortir ses compagnons de leur ascenseur en panne. 11 septembre 2001, paraît chez L'Arche au début de l'année 2002. 2 ans auparavant avait paru à la même maison d'édition la visite du chancelier autrichien en Suisse. Réflexion de Vinaver sur les raisons d'avoir refusé de participer à un festival littéraire en Suisse dont j'ai déjà cité un passage. Il explique que la raison de son refus ne représente pas une position réfléchie, rien qui ne ressemble à un engagement politique, c'était au contraire le résultat de ce qu'il nomme une déflagration provoquée par la lecture d'un article dans l'International Herald Tribune, il continue à lire les journaux américains, qui rend compte de l'accueil en avril 2000 du chancelier autrichien, porte-parole du nouveau gouvernement Haider, avec tous les honneurs diplomatiques dans la capitale suisse. Cherchant à comprendre sa réaction, il la relie à ce qui lui était arrivé en jeune militaire, et ceci lui mène à expliquer que le réfractaire n'est pas le rebelle. Il ne vient pas s'opposer au réel ou à l'ordre social, mais il trouve que quelque chose fait que ça ne colle pas. Et donc son comportement est à l'écart de ce qu'on attend, et c'est souvent plus intolérable. L'organisateur du festival lui demande de justifier son boycott, mais Vinaver lui répond que ce n'est pas un boycott, car, je le cite, « un boycott a un caractère collectif. Mon geste a le caractère d'une abstention personnelle. » Peut-être est-ce cet événement et le souvenir qu'il entraîne, qu'il ramène à son roman de jeunesse et le fait entreprendre une adaptation théâtrale. De toute façon, cette adaptation, il l'a fait, l'adaptation de l'objecteur, et elle paraît chez L'Arche en 2001 et fait preuve de la continuité chez Vinaver de son intérêt pour ce personnage de l'objecteur qu'il nomme l'empêcheur de danser en rond. L'intérêt fondamental de cette pièce, pour moi, et dans son commentaire historique et politique d'une période qui peut être considérée comme donnant naissance aux attitudes qui sont toujours à la base de la vie sociale et politique en France. Comment choisir sa vie, comment revendiquer ses actions, expliquer ses choix éthiques et politiques sans tomber dans des prises de position manichéennes, communistes, anticommunistes, pro-américains, anti-américains, etc. Et pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, surtout les événements économiques, politiques, est-ce qu'il y a des moyens qui ne retombent pas dans les clichés et stéréotypes de la deuxième moitié du siècle passé ? C'est de tout ça que traite cette pièce, à mon avis.